de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. L'Indonésie et l'Angola sont déterminés à renforcer leurs relations commerciales. Ministère de l'Industrie accélère la croissance de l'écosystème du véhicule électrique. Ministre du Commerce de la République d'Indonésie vise une valeur commerciale entre l'Indonésie et l'Inde de 50 milliards de dollars en 2025. UI coopère avec la Corée du Sud pour développer l'apprentissage numérique. L'Indonésie a participé à une exposition de produits de la mer aux États-Unis. Quatre représentants indonésiens se qualifient pour le top 16 All England. Et réunion du FIPOL à Bali a discuté du développement de la recherche sur l'huile de palme. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'ambassadeur d'Indonésie en Namibie, en même temps que l'Angola, Wisnu Edi Pratikno, et le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandez, ont convenu qu'il était nécessaire de former une commission mixte Indonésie-Angola pour mettre en œuvre divers accords bilatéraux et était déterminé à renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Cela a été transmis par Wisnu dans une déclaration écrite à Jakarta mardi. Wisnu s'est rendu à Luanda, en Angola, du 12 au 16 mars et a rencontré Victor Fernandez pour renforcer les relations commerciales et la coopération dans un certain nombre de secteurs entre les deux pays. Selon Wisnu, le gouvernement indonésien a mené des études impliquant divers partis pour identifier les opportunités de coopération commerciale par le biais d'un programme d'accords commerciaux préférentiels. Pendant ce temps, Victor a déclaré que l'Angola faisait désormais partie de la zone de libre-échange continentale africaine, AFCFTA, qui facilitait l'échange de biens et de services sur ce continent. Le ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie cherche à accélérer la croissance de l'écosystème des véhicules motorisés électriques à batterie, KBLBB, afin de réduire la consommation de carburant. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Dodi Widodo, lors du séminaire Indonesia Loading Economic Forum 2023 qui a été suivi en ligne à Jakarta. A expliqué mardi, son parti tente actuellement d'accélérer la croissance de l'écosystème KLBB en Indonésie. Dodi a également déclaré que l'on espère que l'objectif de production du KLBB en 2035 pourra produire 1 million de voitures électriques, ce qui peut réduire la consommation de pétrole de 12,5 millions de barils. En outre, en 2035, il est également prévu que la production de moteurs électriques estimée à 12 millions pourra réduire la consommation de 18,86 millions de barils de pétrole. Le gouvernement prévoit également de fournir des incitations pour 35 900 véhicules motorisés à 4 roues et voitures électriques, en 138 bus électriques en décembre 2023. Cependant, les détails de ce plan sont en cours d'étude. Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, a discuté des efforts visant à accroître la coopération commerciale entre l'Indonésie et l'Inde, qui pourrait atteindre 50 milliards de dollars américains en 2025. Avec le président de la Confédération de l'industrie indienne, CII, Sanjeev Bajaj, à New Delhi, Inde, mardi 14 mars. Le ministre du Commerce, Zulkifli, dans une déclaration écrite à Jakarta, a expliqué mardi que l'on espérait que les deux pays pourraient réaliser un commerce total de 50 milliards de dollars en 2025, selon l'objectif fixé par les dirigeants des deux pays depuis 2018. Le ministre du Commerce a encouragé la poursuite de la collaboration entre les acteurs économiques des deux pays pour atteindre l'objectif. Le ministère du Commerce dirigera à nouveau des activités de mission commerciale en Inde avec des acteurs commerciaux indonésiens. Il espère que les entreprises membres du CII pourront participer à la mission commerciale envisagée afin de renforcer davantage les interactions commerciales entre les deux pays. L'Université d'Indonésie UI a collaboré avec la Corée du Sud pour développer l'apprentissage numérique et développer la coopération internationale dans l'enseignement supérieur. Le vice-chancelier de l'UI pour les affaires académiques et étudiantes, le professeur Abdul Haris, dans la déclaration officielle de l'Université indonésienne reçue par Antara Jakarta, a expliqué mardi que la collaboration avec KOIKA est un effort pour accélérer la capacité et la qualité des ressources d'apprentissage à l'Université indonésienne. Afin de renforcer la capacité d'apprentissage numérique, son équipe et le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie ont visité l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA, lundi 13 mars. L'Université indonésienne et le ministère de l'Éducation et de la Culture doivent également rencontrer des représentants des gouvernements locaux par l'intermédiaire du ministère sud-coréen de l'Éducation et de l'Institut national pour l'éducation tout au long de la vie. Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, KKP, de la République d'Indonésie, participe au Seafood Expo North America SENA à Boston, États-Unis, du 12 au 14 mars 2023, en présentant les principaux produits de la pêche du pays, cultivés et pêchés. La PLT de la directrice générale pour le renforcement de la compétitivité des produits maritimes et de la pêche, Ishartini, par sa déclaration écrite, a déclaré mardi que la participation de l'Indonésie à cette exposition était une étape concrète du ministère des Affaires maritimes et de la pêche dans le renforcement du marché d'exportation et de l'image de marque des produits de la pêche dans la plus grande exposition de fruits de mer des Amériques, à laquelle ont participé plus de 50 pays. KKP a fait venir 14 exportateurs qui ont exposé des produits d'élevage et de pêche. Les produits présentés vont des crevettes décortiquées congelées, de la chair de crabe et du crabe en conserve, de la viande des ossées ou des filets de tilapia congelés, de la langue de thon congelée et fraîche ou thon en conserve. Pendant ce temps, le directeur de la logistique de la direction générale du PDSPKP, Bernie Asubki, a révélé que son parti faisait la promotion des produits de Vivano et de Meru indonésiens lors de la réunion de table ronde sur la chaîne d'approvisionnement du Vivano et du Meru indonésien. La réunion est une collaboration avec le Sustainable Fisheries Partnership, SFP, qui est un événement qui rassemble des acheteurs et des fournisseurs de Vivano et de Meru pour le marché mondial. La présence de l'Indonésie à cet événement devrait accroître les exportations de produits de la pêche vers le marché mondial, en particulier vers les États-Unis en 2023. Quatre représentants indonésiens ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale du All England 2023 à partir des résultats du premier tour qui s'est déroulé mardi 14 mars. Le duo masculin Bagas Fikri est devenu le premier représentant indonésien à se qualifier pour les huitièmes de finale. Muhammad Sohibul Fikri et Bagas Maulana ont réussi à battre Kim Gi-jung, Kim Sarang de Corée. Dans un duel qui a duré 54 minutes, Bagas et Fikri se sont imposés 21 et 15, 13 et 21, 21, 16. Anthony Ginting a ensuite atteint le deuxième tour. Ginting a également dû faire face à une forte résistance de la part du joueur de badminton thaïlandais Kantapon Wangcharon. Dans un duel acharné, Ginting s'est imposé 21 et 7, 21, 17, 21 et 19. Rehan Noval Kusharyanto et Lisa Ayu Kusumawati ont également pu entrer dans les 16 dernières. L'Indonésie peut encore augmenter le nombre de représentants pour les huitièmes de finale après la tenue du premier tour de la session mercredi. La réunion scientifique de la Conférence internationale sur le palmier à l'huile IOPC, organisée par le Centre de recherche sur l'huile de palme, PPKS, dans la province de Bali, a discuté de l'évolution des problèmes de la recherche et des derniers titres de la technologie de l'huile de palme. Le directeur du Centre de recherche sur l'huile de palme, PPKS, Edwin Chaputra Louis, à Nusa Dua, Badung, Bali, a déclaré mardi que la réunion de la Conférence internationale sur le palmier à huile de 2022 devrait fournir de nouvelles perspectives et stratégies aux acteurs de l'industrie de l'huile de palme pour faire face à divers défis. Dans un contexte d'incertitude économique, en outre, on espère que la réunion qui a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19 contribuera à assurer la pérennité d'une industrie de l'huile de palme, respectueuse de l'environnement et durable à l'avenir. Edwin Chaputra Lubis a expliqué que l'activité a réuni 900 participants de 14 pays et a présenté 72 conférenciers et 112 affiches scientifiques. La série d'activités organisées comprenait des conférences plénières, des séances en petits groupes avec trois domaines thématiques, à savoir le développement de produits agricoles et biotechnologie, la technologie de transformation et la bioénergie, ainsi que l'environnement, la socio-économie et les affaires. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Thank you. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Étape de l'élection de 2024 se poursuivre ». Vous êtes avec moi, Audrey. Serge Huétard, le discours sur le report de l'élection générale de 2024 a été un grand débat dans la société indonésienne du début au milieu de 2022. Je ne sais pas quel est le véritable objectif. Un certain nombre de ministres, de chefs, de partis et même de villages, les chefs d'État, ont exprimé le report des élections de 2024, alors que plus de gens qui rejettent la proposition. Le débat de plus en plus intense a fait parler le président Joko Widodo. Il a interdit à ses ministres de rappeler d'un président à trois mandats ou de reporter les élections de 2024. Le président a également encouragé la Commission électorale générale, KPU, à poursuivre sans délai les étapes électorales prévues. Plus récemment, le public a été choqué par la décision du tribunal du district central de Jakarta qui a accordé le procès du Parti populaire Adil Makmur contre le KPU. Dans sa décision, le panel de juges du tribunal du district central de Jakarta a ordonné au KPU de reporter les étapes des élections de 2024. Le nouveau parti a tenté une action injuste contre le tribunal parce qu'il n'avait pas réussi la vérification administrative pour devenir un participant aux élections de 2024. La décision du tribunal de district central de Jakarta a également été fortement contestée par divers groupes allant d'experts en droit à des militants électoraux. Ils ont mis en cause la compétence du tribunal de district pour ordonner le report de l'élection actuellement. Le KPU a officiellement déposé un recours contre la décision du tribunal de district central de Jakarta. Comme s'il donnait une réponse une fois de plus, le président Joko Widodo est apparu. Le mardi 14 mars, le président a été officiellement enregistré comme électeur pour les élections de 2024. Le processus de vérification et de recherche chocolite des données des électeurs par le KPU a été effectué au palais présidentiel de Jakarta. Un responsable de la mise en jour des données et de la compilation de la liste électorale vérifie exhaustivement de l'identité du président. Après cela, les officiers ont mis des autocollants à l'entrée du palais. L'autocollant est un signe que le président Jokowi et sa famille ont été enregistrés dans sa base des données et des électeurs. Le président du KPU, Hashim Ash'ari, qui a été témoin du processus d'appariement et de recherche, Choklit, a déclaré que le président Joko Widodo avait été officiellement enregistré en tant qu'électeur. Cela implique que des élections simultanées auront toujours lieu en 2023. Maintenant, on s'attend à ce que le public continue de soutenir la mise en œuvre des étapes électorales avant que des élections, tous les cinq pays puissent continuer à avoir lieu dans l'intérêt du maintien de la démocratie dans ce pays. Bonjour, Gétard. C'est tout le commentaire.
Bonsoir à tous. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 15 mars 1990. Mikhail Gorbatchev prête serment en tant que président de l'Union soviétique. Mikhail Sergeyevich Gorbatchev était le dernier dirigeant de l'Union soviétique avant la dissolution du pays en 1991. Avant d'être assermenté président de l'Union soviétique le 15 mars 1990, Gorbatchev était secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, ce qui signifie le chef du gouvernement de l'Union soviétique depuis 1985. En tant que président, Gorbatchev a lancé sa célèbre politique appelée Glasnost ou ouverture et Perestroïka ou restructuration. Cette politique a déclenché des changements politiques et économiques internes qui ont conduit à l'effondrement de l'Union soviétique. Gorbatchev a reçu le prix Nobel de la paix en 1990 et le prix Ronald Reagan de la liberté en 1992. Passons maintenant à l'événement du 15 mars 2011, la guerre civile syrienne éclate. La guerre civile syrienne est un conflit armé multipartite avec une intervention internationale en Syrie. Les troubles se sont intensifiés depuis les manifestations du soulèvement du monde arabe en 2011 contre le gouvernement du président Bachar el-Assad. La guerre implique le gouvernement syrien, une alliance large des groupes rebelles arabes syriens, les forces démocratiques syriennes, des groupes djihadistes salafistes dont le Front al-Nusra et l'État islamique d'Irak et de Syrie. La guerre a commencé le 15 mars 2011 et continue jusqu'à maintenant. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 15 mars 2019, la fusillade dans la mosquée de Christchurch. La fusillade de la mosquée de Christchurch a eu lieu dans deux mosquées, à savoir Al-Nur et Linwood Islamic Center à Christchurch en Nouvelle-Zélande, le 15 mars 2019. Au moins 51 personnes sont mortes et 40 autres ont été blessées à la suite de cette attaque. Le seul auteur, Benton Harrison Tarrant, a été jugé et condamné à la prison à vie sans possibilité de réduction de sa peine. Cette attaque est l'attaque la plus meurtrière en Nouvelle-Zélande. Ces auditeurs, c'était l'histoire du jury pour ce soir.
Jangan sembunyi, sembunyi. Bila kau ingin kita berjalan sendiri, sendiri. We'll be right back.
jangan bayangkan persandingan. Luka ku kan siap bukan ngamku. Tau kisah kita sudah lama buram. Dan mungkin ini sudah batas kita. Dalam hatimu aku tak ada. Aku tidak butuhkan senyuman. Lepaskanlah diriku, lepaskan. Sudah, ayo. Katakanlah, katakan saja. Sudahlah, cepat selesaikan.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sejeritak bonsoir, voici Mon Indonésie yang pour le titre La fermeture de Silicon Valley Bank n'a pas d'impact direct sur les banques en Indonésie. L'autorité des services financiers, OJK, considère que la fermeture de la Silicon Valley Bank, ou SVB, par Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC des États-Unis, le 10 mars 2023, n'aura d'impact direct sur le secteur bancaire indonésien qui dispose de la condition solide et stable. La directrice générale de l'OJK pour la supervision bancaire, Diane Ediana Rai, dans un communiqué officiel lundi 13 mars a déclaré que la fermeture de SVP ne devrait pas avoir d'impact direct sur les banques en Indonésie qui n'ont pas de relations d'affaires, de lignes de crédit ou d'investissement dans des produits de titrisation SVB. De plus, contrairement aux SVB et aux banques aux États-Unis en général, les banques indonésiennes ne fournissent pas de crédit et d'investissement aux startups technologiques ou aux startups ou à la cryptographie. Par conséquent, OJK espère que la société et l'industrie ne seront pas affectées par les diverses spéculations qui se développent parmi le public. Selon elle, après la crise financière de 1998, l'Indonésie a pris des mesures fondamentales pour renforcer les institutions, l'infrastructure juridique et la gouvernance du secteur bancaire, ainsi que pour renforcer la protection des clients. Ces mesures ont créé un système bancaire solide, résilient et stable. Selon Diane Ediana Rai, l'état actuel du système bancaire indonésien affiche de bonnes performances en matière de liquidité, comme en témoigne le ratio des actifs liquides AL sur les dépôts non essentiels NCD et le ratio des actifs liquides sur les fonds de tiers DPK qui est de 129,64% et 29,13%, bien au-dessus du seuil minimum de 50% et de 10% respectivement. Les actifs bancaires sont également maintenus en proportion avec les fonds de tiers qui sont dominés par des comptes courants et des comptes d'épargne, CASA, ou des fonds à faible coût qui augmentent de sorte qu'ils ne sont pas sensibles au mouvement des taux d'intérêt. De même, pour d'autres, les performances telles que le risque de crédit, le risque de marché, le capital et la rentabilité se maintiennent et progressent positivement. En outre, il n'y a actuellement aucune banque commerciale en Indonésie qui entre dans la catégorie des banques en résolution, à savoir les banques qui connaissent des difficultés financières compromettant la continuité de leurs affaires et ne peuvent pas être relancées. La directrice générale de l'OJK pour la supervision bancaire, Diane Ediana Rai, a souligné que sa parti continue de mener diverses mesures politiques collaboratives et synergiques avec la Banque d'Indonésie, le ministère des Finances et la Société d'assurance des dépôts. Cette mesure a été prise à la fois directement et par l'intermédiaire du Comité de stabilité des systèmes financiers, KSSK, afin d'anticiper les impacts et les pressions mondiales qui pourraient survenir. C'est le retard, c'était l'Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Semua kebaikan untuk sesama.
Berbagilah, bagikan semua kebaikan untuk sesama. Dan berhenti, berhentilah buang-buang waktumu percuma. Berbagilah, bagikan semua
c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie.
de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Cher Jolitard, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Ces auditeurs, le charme offert par l'île de Bali ne disparaît jamais. Il est prouvé que de nombreux touristes nationaux et étrangers du monde entier sont tombés amoureux de la beauté de l'île des dieux. Si vous êtes intéressé par le tourisme historique, nous vous recommandons de visiter Pukkisarjan Agung, un palais historique situé à Ubud, la résidence de Gianyar, Bali. Depuis la fin du 19e siècle, ce palais est la résidence officielle de la famille royale d'Ubud ainsi que le centre du gouvernement. Cet endroit est un témoin silencieux de l'histoire du royaume d'Ubud. Aujourd'hui, ce complexe de bâtiments historiques situé en plein cœur d'Ubud est utilisé comme musée et centre des arts traditionnels balinais. En plus d'avoir une valeur historique, Pukkisarjan Agung a aussi des valeurs très esthétiques. Même s'il a été construit depuis longtemps, ce palais est toujours solide et bien entretenu. En fait, il est toujours le même que sa forme d'origine. L'architecture traditionnelle des bâtiments balinais est clairement visible à travers les ornements sculptés et d'autres détails de chaque côté du palais. Les murs sont faits de briques rouges décorées de reliefs et de sculptures traditionnelles. Le spot photo qui est un lieu de prédilection pour les touristes est l'entrée qui a une sculpture dorée esthétiquement agréable. Les sculptures sur pierre ajoutent à son caractère unique. À l'avant, il y a encore de nombreuses statues de haute valeur artistique qui se tiennent fermement à plusieurs endroits. De plus, vous pouvez également vous promener dans toutes les directions pour trouver l'endroit le plus beau et le plus approprié à utiliser comme arrière-plan photo. Ces auditeurs, l'étendue de rizières verdoyantes aux terrasses soignées est une icône d'Ubud. Vous pouvez le voir en personne et le regarder pendant longtemps lorsque vous êtes à Pukkisarjan Agung. La position du palais en altitude permet aux touristes de se rafraîchir les yeux avec des vues verdoyantes. Cette destination touristique culturelle historique se trouve dans une zone stratégique et est facile d'accès. Il vous suffit de saisir l'adresse complète sur la carte numérique, à savoir sur Jalan Raya Ubud numéro 8, le district Ubud, la résidence de Gianyar, Bali. C'est Zurita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
tapi cinta tak juga kau katakan.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente les vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix d'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie. Du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Bagaimana cara ke apotek? Bagaimana cara ke apotek? Comment pour se rendre à la pharmacie? Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Bagaimana cara ke apotek? Bagaimana cara ke apotek? Comment pour se rendre à la pharmacie? Cette conversation se déroule entre Dev Singh, un touriste indien, et le réceptionniste. Dev demande au réceptionniste comment pour se rendre à la pharmacie. Bagaimana menuju ke apotek? Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel. Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Bagaimana cara ke apotek? Bagaimana cara ke apotek? Comment pour se rendre à la pharmacie? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Bagaimana, bagaimana, comment? Menuju, menuju, se rendre. Ke apotek, à la pharmacie. Bagaimana menuju ke apotek? Bagaimana menuju ke apotek? Comment pour se rendre à la pharmacie? Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase Bagaimana menuju ke apotek? Bagaimana menuju ke apotek? Comment pour se rendre à la pharmacie? Dans la phrase, il y a un interrogatif Bagaimana,
bagaimana, comment. Semua interrogatif, bagaimana, bagaimana, comment, utilisé pour demander comment faire quelque chose. Et dans cette phrase, le mot interrogatif bagaimana, bagaimana, comment, est utilisé pour demander comment se rendre à la pharmacie. Pour demander comment se rendre à un lieu, le mot interrogatif bagaimana, bagaimana, comment, peut être suivi des mots exprimant l'activité, par exemple, pergi ke, aller à, et le mot de lieu ou dans lieu. Par exemple, apothèque, apothèque, pharmacie. Pour demander comment aller quelque part, vous pouvez aussi utiliser ou ajouter l'expression pergi ke, aller à, ou cara ke, se rendre à. Après le mot interrogatif, bagaimana, bagaimana, comment. Et maintenant, écoutons la phrase pour demander cara menuju ke suatu tempat. Cara menuju ke suatu tempat. Comment pour aller quelque part? Bagaimana? Bagaimana? Comment? Bagaimana pergi ke restoran? Bagaimana pergi ke restoran? Comment pour aller au restaurant? Bagaimana cara ke restoran? Bagaimana cara ke restoran? Comment se rendre au restaurant? En Indonésie, vous pouvez pas seulement acheter des médicaments dans les pharmacies, mais aussi dans les supermarchés ou les magasins qui vendent des médicaments en vente libre. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute! Bagaimana menuju ke apotek? Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel. Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Java Central intitulée Ojo di Bandingke. Chers auditeurs, la chanson Ojo di Bandingke est devenue virale après avoir été chantée par Farel Prayoga lors de la commémoration du
77e jour de l'indépendance de la République d'Indonésie au Palais Merdeka à Jakarta. La chanson composée par Abah Lala contient l'expression du cœur d'une personne qui est comparée aux autres par son amant. Le cœur, tous les sacrifices ne valent rien. Ojo Dibandingke, qui signifie en indonésien ne pas comparer, contient également la lutte d'une personne pour montrer son amour. Bon, chers auditeurs, voici Abah Lala va chanter une chanson de Java Central intitulée Ojo Dibandingke. Bonne écoute.
Wong kang ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beto yang dibandingke, ora ono sing tak pamerke. Aku raiso yen kon gawe-gawe.
Saing-saing ke, yo mesti.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.